Campus Radio, en coproduction avec El Laberinto, présente une série d'épisodes pour parler de ces moments névralgiques où art et droit s'entrecroisent, en dévoilant ainsi des rapports cachés qui les lient. Épisode 30, appropriationnisme, conclusion et entretien intégral de maître Marc-Olivier Deblanc. Le 10 mai 2024, nous rencontrions maître Marc-Olivier Deblanc, spécialiste du droit de la propriété intellectuelle, pour parler du mouvement appropriationniste et les enjeux juridiques qui le percent. Nous avons notamment exploré ce qui permet de distinguer l'action de ces artistes de la contrefaçon. Passionné par le sujet, maître Deblanc a développé, pendant 1 heure et demie, une pensée mûrie par l'expérience pratique en tant qu'avocat et par une fréquentation et analyse de ce type de forme de création artistique. Le format de notre série, autour de 20 minutes, et nos objectifs, transmettre de façon simple des connaissances juridiques et esthétiques, nous ont emmenés à faire une sélection très focalisée sur certains des aspects développés par Marc-Olivier et éclairer en parallèle le travail d'un artiste. L'intérêt de l'intégralité de l'intervention de Maître Deblanc nous emmène nonobstant à produire cet épisode spécial d'un format et durée inhabituel afin de partager sa réflexion et ses connaissances sur la forme qui nous a été donnée originalement par lui et avec la pluralité d'éléments qu'il a abordés et développés dans son intervention.
L'objectif aujourd'hui, c'est de poser la question de l'appropriationnisme, à la fois au regard des notions juridiques, de la notion juridique d'appropriation, qui a trois niveaux de lecture, sur lesquels je reviendrai. Le premier niveau de lecture, c'est le droit civil. Le deuxième, c'est le droit pénal. Et le troisième, qui nous intéresse plus particulièrement, c'est la propriété intellectuelle. Alors, l'axe de réflexion sur l'appropriationnisme nous est venu du fait de plusieurs procédures et de procès ces dernières années où, pour contrer l'argument de la contrefaçon ou du parasitisme, j'y reviendrai, certains artistes ont revendiqué la qualité d'artiste appropriationniste, qui permettait de se poser sur la ligne de crête de ce qui relève de la reprise légitime ou illégitime de l'emprunt qui est fait à des œuvres préexistantes, à ce qui fait basculer vers la contrefaçon, qui est un délit à la fois civil et pénal, ou au parasitisme artistique. Donc, il y a une question générale et générique qui se pose, c'est la question de la légitimité de ces emprunts. Et il y a une question qui se pose derrière, qui est presque une question éthique et morale, qui est la question de l'intentionnalité. Et on va voir comment on fait une sorte de va-et-vient entre les notions juridiques civilistes, les notions juridiques en droit pénal et les notions juridiques en propriété intellectuelle, et comment on arrive à une réflexion plus globale sur l'appropriation dans l'histoire de l'art, et comment se positionnent les juges, les théoriciens et les praticiens par rapport à cette question. Alors, on va d'abord démarrer par une sorte de paradoxe juridique dans la matière qui nous concerne du droit de l'art et dans la question de l'histoire de l'art. La notion d'appropriation est une notion qui n'est pas définie en soi, mais qui en droit civil, et plus particulièrement en droit des biens, permet de définir ce qu'est un bien. Le droit civil, depuis le droit romain, définit le bien comme une chose tangible, susceptible d'appropriation. C'est-à-dire que dans les objets de droit, on définit une catégorie d'objets de droit, qu'on appelle le bien, et ce bien est susceptible d'appropriation. Alors, l'appropriation, au sens étymologique du terme, c'est faire sien, faire propre, c'est-à-dire s'attribuer quelque chose qui, a priori, ne nous appartient pas ou n'appartient à personne ou dont on ne définit pas un droit fixe. Ce qui va qualifier le bien, c'est son caractère tangible, c'est-à-dire son caractère physique, et si je résume, que je puisse le tenir entre les mains, d'être susceptible d'être approprié. Donc, on voit que le droit civil structure une notion fondamentale qui est le bien autour de la notion d'appropriation. Et on verra vers quoi ça nous mène quand on aura une réflexion sur la propriété intellectuelle et sur l'appropriationnisme dans l'histoire de l'art. Alors tout de suite, il faut soulever ce premier paradoxe, c'est que le droit civil va nous expliquer que le bien est défini par sa corporalité, par sa capacité d'appropriation, mais on vient nous dire qu'il y a une autre catégorie de biens qui sont des biens incorporels et qui sont des biens qui sont précisément insusceptibles d'appropriation physique tangible qu'on ne peut pas tenir entre les mains. Et ces biens incorporels, c'est une catégorie qu'on appelle également les droits incorporels, c'est-à-dire précisément quelque chose qu'on ne peut pas saisir. C'est cette couche invisible au-dessus d'un objet particulier qui est une œuvre d'art qu'on ne peut pas concevoir physiquement. Je m'explique. Lorsque j'achète un livre dans une librairie, il y a une sorte de décrochage qui s'opère et de dissociation intellectuelle entre le monde physique où j'achète un livre, un objet qui pèse un certain poids, qui est tangible, que je tiens physiquement entre les mains, mais j'achète autre chose. Au-delà de la physicalité des pages et des mots reliés qui forment un ouvrage, on a quelque chose qui ressort de l'incorporel, de l'esprit créatif, et donc de ce qu'on appelle l'œuvre, qui n'est pas appropriable. En d'autres termes, si demain j'achète un ouvrage d'un nouveau romancier ou un classique, je n'ai pas le droit de revendiquer la propriété du contenu du livre, c'est-à-dire du voyage au bout de la nuit, de la recherche du temps perdu, de Ulysse, etc., du fait seul que j'ai acheté l'objet physique. Ce qui différencie, d'ailleurs, de l'achat d'une maison ou d'une voiture. Quand j'achète une maison ou une voiture, j'en ai, pour reprendre les termes de droit romain, l'uxus, le fructus, c'est-à-dire le droit de l'utiliser, le droit d'en recueillir les fruits, et l'abusus, c'est le droit d'en abuser, mais c'est-à-dire d'opérer des cessions, des reventes, des locations, j'en ai la libre disposition. Et là, il y a une sorte de mur de verre symbolique, j'achète un objet tangible qui est un livre, mais je ne l'achète pas totalement, puisque je ne me fais pas céder les droits qui appartiennent à l'auteur, ou à l'éditeur, ou qui sont passés dans le domaine public, mais qui sont précisément incorporels, qui sortent de la physicalité, et qui sont, alors justement, pas appropriables par le seul fait de l'appréhension de l'objet physique. J'achète une sculpture de Rodin, je ne suis pas propriétaire de l'œuvre de Rodin. Alors, il faut faire un effort intellectuel. Si demain, j'achète un tableau de Picasso chez Christie's, je n'en suis pas pour autant propriétaire des droits de propriété intellectuelle, cette fameuse couche invisible qui recouvre l'œuvre, et je n'ai même pas le droit, quand bien même j'aurais acheté ce tableau de Picasso 50 millions chez Christie's, de faire un t-shirt avec la reproduction de l'œuvre. De même que si j'achète un triptyque de Francis Bacon dans une maison de vente aux enchères ou de gré à gré, je ne peux pas mettre deux parties du triptyque dans mon salon et la troisième partie dans ma chambre. Alors, on peut se dire, mais c'est absurde, puisque j'ai acheté 80 millions, 100 millions, cette œuvre, ce chef-d'œuvre de l'histoire de l'art, et je n'en ai pas la libre disposition. Eh bien, ça, c'est un peu ce mystère et ce paradoxe qui fait qu'il y a un décrochage où le droit civil définit la physicalité et définit le bien par rapport à sa capacité d'appropriation, et de l'autre côté, on a des biens incorporels où il y a un décrochage et une dissociation entre l'appropriation physique et les droits de propriété intellectuelle. Qui veut dire que le code de la propriété intellectuelle et la loi de 1957, et c'est un principe qui vaut dans le monde entier, dit en substance que la propriété matérielle de la chose, quand on parle d'une création de l'esprit, c'est-à-dire d'une œuvre, est distincte de la cession des droits. Je vais donner un sujet d'actualité sur lequel j'ai écrit récemment. L'affaire qui a opposé la fondation John Mitchell à la société Louis Vuitton. Il y a eu une exposition rétrospective qui mettait en dialogue les œuvres de Monet et les œuvres de John Mitchell, grand artiste du courant de l'expressionnisme abstrait, et avec une sorte de petit truc de commissariat d'exposition qui consistait, ce qui est assez génial, il faut l'admettre, de décadrer les œuvres de Monet pour les mettre en équivalence avec les œuvres des expressionnistes abstraits, dont l'un des postulats était précisément d'enlever le cadre, c'est-à-dire l'ornementation, c'est-à-dire, strictement parlant, l'encadrement et le dispositif de monstration des œuvres et de présenter les œuvres sans cadre. Donc, pour mettre et pour permettre le dialogue et la visibilité de ce dialogue, et l'idée était de présenter Monet comme le père de l'abstraction et ou de l'expressionnisme abstrait, de les mettre en équivalence et d'enlever les cadres. Peu importe, ça c'est pour le volet commissariat d'exposition et dispositif de monstration. Le sujet étant le suivant, pendant cette exposition qui se passait à la Fondation Louis Vuitton, qui est une entité juridique différente pour des raisons évidentes de schizophrénie d'activité, c'est-à-dire qu'on a une activité commerciale qui est l'activité de Louis Vuitton, et on a une fondation qui est une fondation d'intérêt public, dont l'intérêt est un intérêt supérieur à un intérêt commercial, c'est la diffusion de la culture et la diffusion des œuvres. Ce que fait très bien la Fondation Louis Vuitton, on a vu la collection Morozov, on a vu la collection Tchoukin, on a vu parmi les plus grands chefs-d'œuvre de l'histoire de l'art passer à la Fondation Louis Vuitton à travers ses collections. Donc il y a un souci de diffusion au plus grand nombre jusqu'à la rétrospective extraordinaire de Simon Antaille. Néanmoins, pour des raisons sociales, pour des raisons fiscales, pour des raisons d'étanchéité, il ne peut pas être présenté dans les boutiques de Louis Vuitton des œuvres de la Fondation, de même que la Fondation ne peut pas vendre des sacs à main. Pourquoi ? Puisque les fondations bénéficient d'un régime fiscal favorable, bénéficient d'un certain nombre de dispositifs qui ne sont pas les dispositifs d'une activité commerciale. Donc, en quelque sorte, on ne peut pas tout avoir. Ce qui différencie, ceci étant, la Fondation Louis Vuitton de la collection Pinault, qui est là une collection personnelle, privée, qui se propage à travers des lieux, la Bourse de commerce qui vient d'ouvrir il y a un an et demi, le Palais de Grazzi et la Pointe de la Douane. Pour revenir à notre sujet, donc il y a eu cette publicité avec Léa Seydoux qui posait devant des œuvres, trois œuvres différentes de John Mitchell. Alors il y a plusieurs façons de voir les choses. Soit on raisonne au premier degré, si je puis dire, et on se dit, ben, il y a une fondation qui organise un événement autour de John Mitchell, on a des œuvres qui peut-être appartiennent à la fondation, peut-être appartiennent à Bernard Arnault, mais en tout cas qui font l'objet d'un événement, et on profite de ces événements, puisqu'on a une fondation qui s'appelle la Fondation Louis Vuitton, et on a une marque qui s'appelle la marque Louis Vuitton, qui communique très 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 largement sur cette collaboration entre l'art et le luxe. Il vous a pas échappé dans les trois derniers mois une campagne absolument gigantesque autour de Yayoi Kusama, qui va de la fabrication d'une ligne de sac à main qui est créée par Yayoi Kusama ou autour de l'œuvre de Yayoi Kusama, jusqu'à l'image de Yayoi Kusama qui est utilisée dans la promotion, et presque de façon paroxytique, des automates à l'effigie de Yayoi Kusama, c'est-à-dire des répliques de Yayoi Kusama, et une statue de 20 mètres de hauteur devant la Samaritaine. Donc il y a là une sorte de, encore une fois, de paroxysme de la collaboration entre la marque et un artiste, et de la collaboration, et du message qu'on envoie sur ce mariage et cette consanguinité entre l'art et le luxe. Donc, au premier degré, on se dit, bah, écoutez, la marque Louis Vuitton, elle fait ce qu'elle veut, elle a une fondation, et la fondation a des œuvres, donc on fait poser un mannequin, en l'occurrence Léa Seydoux, pour faire la promotion des sacs à main. Sauf que la fondation John Mitchell, elle a rappelé des règles qui sont des règles fondamentales, qui sont celles que je viens de rappeler, c'est-à-dire que la détention de l'objet physique n'emporte pas cession des droits. Or, pour faire une publicité, c'est-à-dire associer l'œuvre d'un artiste à une marque, et même simplement pour reproduire l'œuvre sur une publicité, il faut l'autorisation des ayants droit. Et ça, c'est complètement disjoint, c'est complètement différent, et c'est complètement juridiquement séparé de cet événement artistique, de cette exposition. Il aurait fallu donc concrètement signer un autre contrat. Et derrière ça, il y a une sorte de réactivation et de renaissance du droit moral, puisque ce que vient de dire la fondation John Mitchell, c'est-à-dire nous, nos œuvres, elles existent pour être exposées dans des musées, pour faire partie de collections, ou alors à des fins pédagogiques, sous-entendu, pas à des fins commerciales. On refuse, enfin en tout cas nous, dans l'exercice du droit moral de l'œuvre de l'œuvre de l'artiste, on refuse cette marchandisation, ce, pour employer un mot anglais, branding et l'association avec des marques. Et c'est pas parce que la fondation Louis Vuitton nous donne un lieu d'exposition que la marque Louis Vuitton peut se permettre de faire de la publicité commerciale pour vendre des sacs à main. Alors, je reviens, ce débat qu'il y a eu entre la Fondation John Mitchell et la Fondation Louis Vuitton repose cette question du droit civil, de la différence entre le droit des biens qui définit le bien comme ce qui est susceptible d'appropriation, c'est un bien meuble corporel, une œuvre, un tableau et une sculpture sont des biens meubles corporels, qui par exemple sont traités comme tels dans le cadre d'une succession. Et ce décrochage avec les biens incorporels et notamment les droits incorporels, qui sont les droits d'auteur, qui sont quelque chose qu'on ne peut pas saisir. Alors justement, il y a une matière spécifique qui est venue se saisir, mais là au sens théorique et juridique du terme de la question, qui est la propriété intellectuelle. La propriété intellectuelle, c'était de se dire qu'on a une catégorie d'objets particuliers, et cette catégorie d'objets particuliers, c'est ce qu'on appelle les œuvres de l'esprit. Et ces œuvres de l'esprit, elles ont ceci de particulier, c'est qu'elles sont appropriables au sens du droit des biens, c'est-à-dire qu'on peut les saisir physiquement dans leur tangibilité, mais qu'il y a autre chose. Et cette autre chose, c'est dans le système français, dans le système européen, pour simplifier, le droit d'auteur, et dans le système anglo-saxon, le copyright. Alors, la question de l'appropriation, si on bascule du droit civil qui permet cette distinction entre les biens corporels et les biens incorporels, on bascule avec la naissance de ces droits d'auteur et du copyright sur un nouveau sujet et objet de droit qui sont les droits de la propriété intellectuelle. Et les droits de la propriété intellectuelle, ils ont ceci de particulier, c'est qu'ils créent un monopole exclusif d'exploitation qui est en réalité un retour au droit de la propriété au sens civiliste du terme. J'ai, moi, l'auteur, je crée une œuvre, j'ai un droit de propriété. Et on va retrouver les mécanismes du droit de la propriété, c'est-à-dire l'usus, le fructus et l'abusus. Sur cette chose qui sont les droits de propriété intellectuelle, je peux recueillir les fruits, ce qu'on appelle les redevances d'exploitation, par exemple, ou ce qu'on appelle le droit d'auteur par métonymie, c'est-à-dire les rémunérations liées à l'exploitation de l'œuvre. J'en ai l'usus, c'est-à-dire je peux utiliser ces œuvres, les exposer, les montrer, les projeter quand il s'agit d'art vidéo, et j'en ai l'abusus, c'est-à-dire que je peux passer des contrats de licence, des contrats de cession. Donc j'ai toutes les prérogatives et les attributs du droit de propriété à travers la propriété intellectuelle. Alors, j'ai l'habitude de dire que le droit d'auteur, le droit de propriété intellectuelle, c'est un système à double détente. C'est la création d'un monopole. Et alors, c'est-à-dire, c'est l'essence même du droit de propriété. C'est à moi, ça m'appartient, j'exerce mes droits, et c'est une forme, soit qu'on appelle passive, mais une forme de facto, je peux exercer mes droits envers les autres, mais je peux aussi opposer ces droits quand on veut me, et là on va rentrer dans le cœur de la question, quand on veut, je vais employer le terme voler mes droits, mais en tout cas quand on veut profiter de manière indue de mon acte de création pour en faire une utilisation non autorisée. Alors là, on rentre dans un domaine un peu plus complexe. Faisons un petit retour en arrière, qui est la question du droit pénal. Le vol, en droit pénal, est qualifié par le code pénal de l'appropriation frauduleuse de la chose d'autrui. Ben, évidemment, elle est frauduleuse parce que si elle est autorisée, c'est-à-dire s'il n'y a pas d'élément moral, c'est qu'il y a un accord entre les parties et donc ce n'est pas du vol. Si je prête ma voiture à un ami, ce n'est pas du vol. Si ma voiture disparaît dans la nuit et que quelqu'un a pris le volant, c'est du vol, puisque je ne l'ai pas autorisé. Donc, le code pénal définit le vol très précisément comme la soustraction frauduleuse de la chose d'autrui. C'est-à-dire, j'ai soustrait à quelqu'un une chose qui lui appartenait de manière frauduleuse pour en faire un usage qui fait que lui-même n'en aura pas d'usage. Et on voit que le vol est organisé pénalement autour de la notion tangible de bien corporel qui fait que la chose que j'avais en ma possession m'échappe parce que frauduleusement il y a eu une organisation délictuelle ou délictueuse pour que je ne puisse plus en avoir l'usage et donc je peux le poursuivre pénalement pour du vol. Et on sait qu'il y a un équivalent du vol sur les biens incorporels, c'est-à-dire les fameux droits de propriété intellectuelle dont je parle, c'est la contrefaçon. Alors la contrefaçon, on la confond souvent avec le plagiat, avec la piraterie, avec diverses notions qui ne sont pas des notions juridiques, même parfois avec la copie. Mais il faut faire attention, la copie, ce n'est pas une notion, on dit « ah tiens, il a copié ». Mais ce n'est pas une notion frauduleuse, la copie. Donc la contrefaçon, c'est très simplement la reproduction ou la représentation non autorisée d'une œuvre de l'esprit. C'est très simple. C'est les articles L122-4 et L335-2 du Code de la propriété intellectuelle qui définissent cette contrefaçon comme un vol de propriété intellectuelle. Pour parler des choses très clairement. Et ensuite, on a vu qu'une autre notion commençait à apparaître, puisqu'il y avait ce qu'on a appelé, ce que des auteurs ont appelé la contrefaçon astucieuse. Alors, qu'est-ce que c'est la contrefaçon astucieuse ? La contrefaçon pure, c'est très simple. Je prends une œuvre et je l'utilise sans autorisation. J'ai une musique des Beatles, je la mets je la synchronise sur un film, sur une scène en particulier, sans demander l'autorisation des ayants droit des Beatles. C'est de la contrefaçon. J'ai utilisé l'œuvre sans l'autorisation. J'écris un livre et je mets en couverture de ce livre une œuvre de Damien Hirst ou de Richard Prince. Je ne demande pas l'autorisation. C'est de la contrefaçon. Alors, c'est la contrefaçon des droits d'exploitation, c'est-à-dire du droit de reproduction notamment, mais c'est aussi ce qu'on appelle de la contrefaçon de droit moral. Je ne mentionne pas, au titre du droit à la paternité et du droit au nom, le fait que l'œuvre est une œuvre de Damien Hirst, de Richard Prince, de Francis Bacon, etc., etc. Donc, ça, c'est la contrefaçon de niveau basique, telle qu'elle est fixée par le droit d'auteur depuis la naissance du droit d'auteur. Et ensuite, on s'est aperçu qu'il y avait quelque chose de plus subtil qu'on appelle, encore une fois, la contrefaçon astucieuse, qui est le parasitisme artistique. Alors, le parasitisme artistique, j'avais écrit, il y a quelques années, dans la Revue internationale de droit d'auteur, un article sur la question. C'est ce qu'on a appelé dans l'histoire de l'art des créations à la manière de. Je vais faire une peinture à la manière de Dali. Je vais faire une peinture à la manière de Léonard de Vinci. Je vais faire une peinture à la manière de Picasso. Alors, il n'y a pas d'ambiguïté si, et je vais y revenir quand on va aborder l'histoire de l'art, si je revendique l'hommage. Si j'affiche la volonté de cette révérence, et j'appelle ça, moi, la révérence-référence à l'artiste dont je restructure, je réfléchis l'œuvre et j'enrichis mon œuvre avec des œuvres préexistantes qui sont des œuvres iconiques de l'histoire de l'art et, en quelques mots, je réinterprète. Le parasitisme artistique, c'est, au sens du droit civil, une faute. C'est-à-dire que mon intention est une intention qui est une intention qui est de porter atteinte, ce qu'on appelle l'intention de nuire, pour réutiliser à vil prix, sans faire l'effort créatif, le travail d'un créateur préexistant, pour faire des économies sur la recherche, le développement en matière de brevets, par exemple, ou sur le travail créatif. Alors, je vais essayer de m'expliquer. J'ai défini le parasitisme artistique dans cet article à l'ARIDA en 2017, qui est la reprise de mauvaise foi ou intentionnelle des éléments consubstantiels et pérennes d'une œuvre dans l'intention de créer la confusion dans l'esprit du public. Alors, je vais dire les choses plus simplement. C'est, tiens, ça me rappelle quelque chose, ça ressemble à Andy Warhol. Tiens, ça me rappelle quelque chose, ça ressemble à Roy Lichtenstein. Et donc, dans cet inconscient collectif de l'histoire de l'art, dont peu de gens ont en réalité une connaissance pointue, on va jouer sur ce fond commun esthétique en disant que tout appartient à tout le monde, que tout puisse être réutilisé et que peu importe, au fond, le travail et l'apport créatif de l'artiste. Or, le parasitisme artistique, il vient dans cette zone, qui est cette zone où on ne peut pas dire qu'il y a une reproduction d'une œuvre à proprement parler, mais qui fait que l'œuvre est reconnaissable. Alors, vous avez des exemples par dizaines et par dizaines. Alors, il va y avoir des exemples où on va, parce que les œuvres sont dans le domaine public, reprendre des œuvres pour communiquer autour de marques. Vous avez le logo de Manpower qui a été pendant des années l'homme de Vitruve de Léonard de Vinci. Vous avez les yaourts Danone dont la publicité était basée sur la laitière de Vermeer. Donc tout ça, c'est disponible puisque c'est dans le domaine public. Mais il y a eu aussi des publicités pour Kaufmann & Broad, le promoteur immobilier, où on reprenait l'ensemble des éléments consubstantiels, esthétiques, reconnaissables, attribuables à Roy Lichtenstein, qui pouvaient laisser penser qu'en réalité, la publicité avait été faite par Roy Lichtenstein. Et récemment, il y a eu un cas que je connais bien puisque je m'en occupe, où une marque de vêtements a repris un travail d'un artiste contemporain, M. Julian Charrière, qui est une fontaine en feu. Alors ça, typiquement, ils n'ont pas repris l'œuvre de mon client, qui est une œuvre qui à la fois fait l'objet d'une performance et à la fois d'une œuvre d'art vidéo, en l'utilisant et en l'introduisant dans sa campagne publicitaire. Là, je serais sur le terrain purement de la contrefaçon, c'est-à-dire la reproduction non autorisée d'un travail préexistant. En réalité, ils ont fait réaliser à la manière d'eux une œuvre, à la manière de Julian Charrière, qui est une fontaine en feu pour la communication de leur défilé au mois de janvier 2023. Et là, il est vrai que cette marque de vêtements, comme beaucoup, font œuvre de cynisme parce qu'il y a un principe dont je n'ai pas parlé pour l'instant. C'est un principe qui échappe au monopole exclusif des droits de propriété intellectuelle, qui sont que les idées sont de libre parcours et que les concepts ne sont pas protégeables. Alors, je vous renvoie à un précédent podcast sur la question de la protection des concepts. Mais toujours est-il que quand on vient dire « Mais attendez, vous reprenez l'œuvre de mon client », la réponse double ou triple, d'un point de vue purement de stratégie judiciaire, elle va être en trois temps. Petit 1, votre œuvre n'est pas originale. Or, l'originalité est la condition essentielle à la protection par le droit d'auteur. Petit 2, il y a des antériorités. C'est-à-dire que dans l'histoire de l'art, j'ai retrouvé des choses qui ressemblaient ou qui étaient identiques aux droits que vous revendiquez. Donc, il y a une dilution du droit d'auteur, voire une disparition, puisque la condition d'originalité disparaît par l'antériorité. Si l'œuvre est antériorisée, mon travail n'est pas original, puisqu'il n'est pas marqué par l'empreinte de la personnalité de l'artiste ou de l'auteur, puisque précisément, ça a déjà existé, et pour être très précis, préexisté. Et le troisième point qu'on oppose, c'est de dire, mais attendez, ce que vous protégez, ce n'est pas une œuvre, c'est une idée et un concept. Et les idées et les concepts ne sont pas protégeables. Je vous donne un exemple. Il y a un grand principe, et ça va nous permettre de faire la transition sur l'appropriation dans l'histoire du droit et dans l'histoire de l'art. Il y a un principe qui dit que les mouvements artistiques ne sont pas protégeables et que même les techniques artistiques ne sont pas protégeables. Pourquoi ? Parce que, comme disait Malraux, l'art se nourrit de l'art. Et que le principe de la propriété intellectuelle et du droit d'auteur étant un monopole, il risque de bloquer ce qu'on appellerait en technologie ou en technique, et il y a un auteur que j'aime beaucoup, Jacques Ellul, qui parle beaucoup de ça dans le système technicien, qui bloque ce qu'on appelle le progrès. Or, il y a un progrès des techniques comme il y a un progrès de l'art. Et comme l'intérêt supérieur d'une civilisation et de la cité, c'est ce progrès, c'est porter vers au plus haut la capacité de l'homme de progresser justement, c'est-à-dire d'évoluer. Or, l'art est une des formes de cette évolution. Et si, par exemple, prenons une hypothèse très simple, on dit que le cubisme est protégeable. et que Picasso et Braque, puisqu'ils ont inventé le cubisme, que Picasso et Braque sont les propriétaires du cubisme, et qu'on pouvait dans l'absolu déposer un brevet ou un droit de propriété intellectuelle ou disposer d'un monopole sur le cubisme, ils auraient pu dire pendant 70 ans sur le terrain du droit d'auteur ou pendant 25 ans sur le terrain du brevet, ben moi j'interdis à quiconque de faire du cubisme. Alors, outre d'un point de vue artistique la difficulté de déterminer ce qui ressort du cubisme, du proto-cubisme ou du cubisme synthétique et de toutes les modalités du cubisme, se posait une autre question, c'est que en créant ce monopole, on empêche l'apparition de l'abstraction. Parce que si je simplifie à l'extrême, sans cubisme, peut-être pas de suprématisme, sans suprématisme, peut-être pas de minimalisme, sans minimalisme, peut-être pas d'art conceptuel, etc., etc., etc. Donc l'histoire de l'art qui se propose au monde comme une forme d'algorithme d'évolution des modes formels d'expression créative se trouverait bloqué par le droit d'auteur. Alors ça aussi, c'est un paradoxe. C'est que le droit d'auteur vient protéger les artistes, mais aussi dispose de systèmes qui permettent de libéraliser, de diffuser librement l'art pour que chacun se nourrisse de l'autre et que l'art, c'est une expression absolue de la liberté. Et quand bien même le droit d'auteur essaye de trouver un dispositif qui soit un entre-deux, il est basé sur un droit de propriété qui est, sans reprendre les fameuses phrases de Proudhon, j'aime beaucoup parce qu'il y a une phrase, bon, on connaît tous la phrase de Proudhon qui dit « la propriété c'est du vol », et il y a une phrase de Fernando Pessoa qui dit « la propriété ce n'est pas du vol, ce n'est rien ». Et j'aime beaucoup cette notion-là, mais la propriété intellectuelle, ça reste un droit de propriété, c'est-à-dire un droit qui empêche et un droit qui interdit. Donc, on a ce dispositif de la contrefaçon qui est l'exercice du droit de propriété, on a des zones d'entre-deux qui sont le parasitisme, et on doit naviguer entre ça, notamment dans l'histoire de l'art. Alors, dans l'histoire de l'art, on va évoquer la question de l'appropriation à deux niveaux. L'appropriation au niveau générique et général, qui s'exprime sous la forme d'un hommage, où j'ai parlé tout à l'heure de la référence et de la révérence. Et d'autre part, l'appropriation comme mouvement artistique des années 60, qui correspond à quelque chose de très particulier, et à un statement, comme on dit en art conceptuel, puisque, selon moi, l'appropriationnisme est une des expressions de l'art conceptuel, dans la mesure où il interroge non plus la forme, mais aussi la forme. Mais il interroge la question des paradigmes, des fameux paradigmes de l'histoire de l'art. Et notamment sous, sous l'égide de trois grandes figures maîtresses qui sont Marcel Duchamp, Magritte dans une certaine mesure et Walter Benjamin. Alors, l'appropriationnisme, si on aborde la question au niveau de l'histoire de l'art, l'histoire de l'art s'est construite autour de l'appropriationnisme. Alors, l'exemple le plus connu, il est assez intéressant parce qu'il met en scène, si je puis dire, une nouvelle notion qu'on voit apparaître en sociologie et en sociologie politique, qui est l'appropriationnisme culturel. L'appropriationnisme culturel, c'est le reproche qu'on peut faire à certaines personnes et à certaines sociétés, des grandes marques de luxe notamment, de reprendre des codes qui ressortent d'une culture ancestrale, et notamment on parle des codes, là ça s'est posé aux États-Unis, afro-américains ou amérindiens, pour se les attribuer, c'est-à-dire pour se les approprier, alors que c'est activé par des personnes dont on considère qu'elles ne sont pas légitimes. Je vais forcer le trait, mais on a vu des mannequins ou des influenceurs qui sont d'origine, on va va dire caucasienne, pour reprendre la terminologie admise, ou le mâle blanc dominant, ou la femme blanche, qui vont reprendre de l'esthétique et des codes esthétiques qui appartiennent à la culture africaine ou afro-américaine, notamment des tresses ou des choses qui sont relatives à des codes urbains, qui sont des codes urbains représentés par essentiellement des personnes qui sont issues de l'immigration. Et on vient leur dire, vous n'êtes pas légitime à venir voler notre culture. N'essayez pas de vous faire passer pour des Indiens, des Amérindiens, n'essayez pas de vous faire passer pour des Afro-Américains, ce que vous n'êtes pas. Et l'appropriationnisme culturel, c'est sur le sens sociologique ce qu'est l'appropriationnisme dans l'histoire de l'art. Alors, dans l'histoire de l'art, il y a la fameuse phrase de Picasso qui dit, de manière un peu provocatrice, qui dit « les bons artistes copient, les grands artistes volent ». Alors, j'allais dire que Picasso est particulièrement mal placé, au sens positif du terme, pour faire cette déclaration de principe, parce que s'il y a bien un artiste qui était dans la création pure et dans la rupture, et justement de ne pas aller voler, de ne pas aller copier, c'est bien Picasso qui, toute sa vie, a essayé d'inventer des nouveaux modes formels d'expression. Mais la formule est séduisante, c'est-à-dire que, qu'est-ce qu'il veut dire par là ? Il veut dire que les bons artistes copient, que l'apprentissage, en réalité, du métier d'artiste, c'est la connaissance de l'art, d'un point de vue théorique, d'un point de vue formel. C'est-à-dire que l'artiste doit se nourrir, c'est-à-dire doit copier les grands artistes qui l'ont précédé, les grands maîtres. Picasso disait que son grand maître était Cézanne. Picasso a emprunté à Velázquez. Lorsqu'il reprend les Ménines, Las Meninas, il réinterprète les Ménines. Et je fais une parenthèse, parce que, comme vous le savez, dans l'ouvrage de Foucault, Les mots et les choses, il y a une soixantaine de pages qui sont consacrées aux Ménines de Velázquez, qui sont extraordinaires. C'est une figure non seulement qui marque l'histoire de l'art, mais dans sa complexité du jeu des miroirs, de la position du regardeur, c'est quelque chose qui mérite non seulement la réflexion, mais qui doit être revisité, et qu'a revisité Picasso. De la même façon que Francis Bacon, lui aussi, reprenait, pour le coup c'est encore une fois Velázquez, reprenait le pape Innocent de Velázquez pour en faire toute sa série de papes, mais, c'est un point fondamental, c'était une réinterprétation et c'était un hommage revendiqué. Et c'est d'ailleurs très souvent, vous allez voir, sur des tableaux, Picasso avait aussi fait le Déjeuner sur l'herbe, vous avez Roy Lichtenstein qui a fait tout un travail autour de Matisse, vous avez Aoki qui a repris des œuvres de Matisse, etc. On va mettre sur le cartel, on va assumer. Et alors là, il va y avoir une petite différence entre assumer et revendiquer. On va voir que dans l'art appropriationniste pur, on va revendiquer. Et c'est très précis en termes de sémantique. Donc on va assumer, d'après les Ménines de Velázquez, d'après Matisse, d'après Duchamp, etc. etc. Marcel Duchamp, qui d'ailleurs va au bout de la démarche en mettant une moustache à la Joconde. Donc on voit bien que l'hyper-référence est présente, et il ne s'agit pas d'une réinterprétation, il s'agit d'un détournement. On a beaucoup ça chez les dadas et les surréalistes. Donc ça, c'est non pas l'appropriationnisme, mais c'est l'appropriation dans l'histoire de l'art. Et dans toute l'histoire de l'art, de la Renaissance jusqu'à l'art contemporain, on va avoir ces hommages plus ou moins appuyés, plus ou moins évidents, mais qui participent d'une sorte de linéage ou de séquence dans l'histoire de l'art où les œuvres sont tellement importantes qu'on les réinterprète et qu'on s'inscrit, nous, artistes, dans l'histoire de l'art en réinterprétant ces chefs-d'œuvre. Et ça, c'est ce qui permet à l'art d'être art. Évidemment, l'exemple de l'appropriationnisme absolu et presque iconique, c'est l'exposition sur l'art nègre au début du XXe siècle qui a servi de fondement à la naissance du cubisme chez Picasso, puisque quand vous regardez une sculpture d'art nègre et que vous regardez Les Demoiselles d'Avignon de 1907, on a l'impression de voir ces coups de ciseaux sur le bois qu'on retrouve dans les sculptures rituelles de l'art nègre. Donc, où là, d'ailleurs, on voit un croisement entre l'appropriationnisme culturel et l'appropriation dans l'histoire de l'art. Mais là, l'ambiguïté du terme appropriation, c'est que quand moi, je suis Picasso, quand je suis Francis Bacon, quand je suis Cherry Levin, quand je suis Roy Lichtenstein et que je rends un hommage, l'idée, c'est pas de me l'approprier et de faire croire que, pour parler en des termes très simples. L'idée, c'est de dire, je suis dans un exercice purement créatif, où je revisite, je réinterprète, et je ne questionne pas. Et là, on va basculer sur ce qu'on appelle l'appropriation art, c'est-à-dire l'appropriationnisme comme mouvement artistique. Je ne revendique pas un positionnement presque politique et culturel de la copie ou de la reproduction, je n'interroge pas, j'utilise l'œuvre d'art préexistante comme un substrat de travail de ma propre création. Et donc, toute l'histoire de l'art, ça a été des réinterprétations, du retravail, comment on repense le cubisme, comment on repense l'art conceptuel, comment on reprend le dada. L'art conceptuel est un bon exemple, puisque Duchamp a fixé l'art conceptuel, mais il n'a jamais dit qu'il avait fait de l'art conceptuel. C'est-à-dire que c'est plus tard, dans les années 60, le mouvement Art and Language et les artistes conceptuels qui sont venus poser des mots sur ce qui était en réalité l'art conceptuel. Alors arrive le fameux l'appropriationnisme. Alors l'appropriationnisme, c'est la différence entre l'hommage que j'ai appelé référence-révérence, ou le décrochage sémantique entre le fait d'assumer l'hommage qui est rendu, la reproduction, et le fait de le revendiquer. C'est pour ça que l'art appropriationniste, qui correspond à un mouvement très particulier où il y a très peu d'artistes, on va y revenir, Hélène Sturtevant, Richard Pettibone, probablement Richard Prince, Cherry Levin, etc., etc., mais le mouvement pur appropriationniste, si je puis dire, dans son expression pure, est un courant qui est quand même un courant assez marginal. Et donc, la différence avec l'emprunt, la reprise, la réinterprétation, c'est la revendication. C'est-à-dire que je pose comme protocole conceptuel, comme statement, pour reprendre le terme anglo-saxon, l'idée que je reproduis l'œuvre d'un artiste, que je le copie et que j'en fais un acte qui est quasiment un acte politique ou théorique. Alors c'est très intéressant. C'est presque de la sur-revendication, puisque je le fais d'ailleurs plus ou moins avec l'assentiment des artistes. Quand je pense à ça, je pense plus particulièement à Richard Pettibone et à Hélène Sturtevant, qui faisait partie de ce groupe artistique qui était le pop art, pour simplifier, qui s'inscrivait à la frontière du pop art et de l'art conceptuel, mais qu'il faisait en connaissance de cause et avec l'assentiment. Il y avait la fameuse phrase de Andy Warhol, où on l'interrogeait sur une bonne œuvre d'Andy Warhol de mémoire. Il a dit « Demandez à Hélène Sturtevant ». Bon. Ou comment on crée une œuvre d'Andy Warhol, et il disait « Demandez à Hélène Sturtevant ». C'est-à-dire que cette position purement conceptuelle de dire « Je reproduis à l'identique » ou à des dimensions différentes, sans, allez, je ne peux pas dire sans effort créatif, mais en assumant cette copie, qui va avoir cette chose très particulière d'être d'une copie légale, qui va la différencier de la copie illégale, qui est la contrefaçon. Et ça revient à ce que j'ai dit tout à l'heure, brandir l'appropriationnisme après coup, pour venir justifier d'une copie illégale, c'est un exercice de style qui est un exercice de mauvaise foi, puisque soit on est un artiste appropriationniste, soit on considère que l'appropriationnisme est non pas un courant artistique, mais une stratégie de défense judiciaire. Donc Sturtevant revendique la copie légale. Et là, d'un point de vue purement conceptuel, son travail est assez génial. Elle ne va pas réinterpréter, elle va reprendre à l'identique et à l'échelle le travail, comme vous le savez, notamment d'Andy Warhol, le travail de Oldenburg, le travail de Félix González Torres, etc., etc. Pour créer cette confusion et ce sort de vertige en disant « mais quel est cet objet qu'on nous présente ? Quelle est cette chose ? Quelle est cette œuvre ?» Cette œuvre, je la connais, c'est une œuvre d'Andy Warhol. Pourtant, je rentre dans une exposition de Helen Sturtevant. Pareil pour Richard Petitbon, mais je connais cette œuvre, c'est une œuvre de Frank Stella, c'est une œuvre de Roy Lichtenstein, mais pourtant elle est en petit format. Et donc elle interroge sur les grands paradigmes de l'histoire de l'art. Elle interroge d'abord sur une sorte d'épuisement de l'acte créatif. Une fois qu'on a créé ce truc un peu génial que pouvait créer Warhol ou que pouvait créer Frank Stella, ben, il y a une sorte d'épuisement de l'acte créatif par sa capacité à être reproduite. Il y a une réflexion sur la reproduction au sens de Walter Benjamin, où Walter Benjamin a théorisé cette notion d'aura. La notion d'aura, c'est de dire que l'aura, c'est-à-dire cette transcendance, cette part de Dieu qu'il y a dans les œuvres d'art, elle n'existe puisqu'on a une œuvre uniquement créée par l'artiste lui-même de sa main. Et que cette émotion, ce vertige qu'on ressent quand on voit Léonard de Vinci, il est issu de la main de Vinci et qu'une œuvre, Proust le disait formidablement dans La recherche du temps perdu, où en fait les œuvres gardent l'âme du créateur. Et c'est ça, cette aura, cette dimension qui est transcendantale en réalité. Mais on s'aperçoit aussi, et c'est à l'époque de la philosophie, enfin des mouvements structuralistes, où on s'interroge sur la question du conditionnement. La question du conditionnement, c'est que, prenons l'exemple de la Joconde, quand je vais voir la Joconde, c'est un acte qui est encadré sociologiquement et politiquement. Je vais dans un lieu majestueux, le Louvre. Je vais dans une des plus belles capitales du monde, Paris. On m'annonce depuis que j'ai 3 ans que la plus grande peinture de tous les temps, c'est la Joconde. Je paye un ticket à un certain prix. Je fais la queue pendant 2 heures. Et j'ai 300 personnes qui font des selfies devant la Joconde. Donc ça, il y a un conditionnement qui va faire que je vais être ému et qu'on va voir sur les réseaux sociaux les gens qui vont dire « Ah, j'ai la chair de poule, je suis à 2 cm de l'œuvre de Léonard de Vinci, etc. etc. » Bon, ça pose la question du conditionnement, ça pose la question de ce que le philosophe Giorgio Agamben appelle le dispositif, la mise en place d'un dispositif de monstration qui scénarise l'accès à l'œuvre et qui, si l'aura n'existait pas, recréer cette aura dans la place de ce que d'un point de vue purement politique, on appelle les structures de pouvoir chez les post-structuralistes et chez Deleuze. C'est-à-dire qu'on met en place un système de pouvoir, un dispositif et un conditionnement qui fait que vous n'avez pas d'autre choix que d'être ému devant la Joconde. Alors j'exagère un peu, mais donc il pose la question de l'aura. Et ce que font les articles appropriationnistes, il pose aussi la question de l'aura qu'avait posé Walter Benjamin dans ses 2 ouvrages fondateurs. Il disait que la photographie et la reproductibilité tuent l'aura. Ben, si on considère que l'aura, c'est la main de l'artiste, que l'aura, elle est cette sorte une sorte de magie incroyable. Il y a un discours formidable de Stefan Zweig en 1939, qui s'appelle « Le mystère de la création » et qui parle de ce truc extraordinaire. Comment Rimbaud écrit « Le bateau ivre » à 17 ans, comment Picasso peint comme Raphaël, comme il le disait à l'adolescence, etc., etc. Ce qui ressort de la transcendance et de ce qui nous échappe. Et Helen Sturtevant, qu'est-ce qu'elle vient faire? Elle va dire « Je ne réinterprète pas, je reproduis exactement à l'identique une œuvre de Andy Warhol. Prenons Andy Warhol. Et là où elle vient redistribuer les cartes, si je puis dire, c'est qu'elle vient dire, mais cette œuvre, c'est une œuvre qui pose pas la question de l'intérêt artistique de Warhol, c'est pas son sujet, mais qui pose la question de dire, ben, est-ce que cette aura, elle existe, puisque on peut être dans le champ de la reproductibilité. Est-ce que vous avez en face de vous, c'est une œuvre d'Andy Warhol, et en même temps, c'est une œuvre de Stuart Hunt. Je me suis contenté de la recopier. Mais, à la fois en même temps, et ce n'est qu'une œuvre de Stuart Hunt. Et le pire, c'est que c'est une œuvre originale de Stuart Hunt. Et que quand j'achète une œuvre de Stuart Hunt, j'ai un certificat qui me dit que devant moi, j'ai une œuvre d'Andy Warhol, devant moi, j'ai une œuvre d'Oldenburg, devant moi, j'ai une œuvre de Félix González Torres, et pourtant, j'ai une œuvre de Stuart Hunt. Et il y avait une confusion où moi-même j'ai été pris par le jeu à la pointe de la douane il y a 3-4 ans, où j'ai pris une photo et de ce que je pensais être une œuvre de Félix González Torres, les fameuses Undefined Objects, ces ampoules qui pendent et qui sont mises de façon aléatoire dans un espace muséal. Et là, je m'aperçois en regardant Cartel que c'est une œuvre de Stuart Hunt. Donc c'est ce moment-là qu'étudie Stuart Hunt et qu'étudie les appropriationnistes. C'est cette confusion et cette remise en perspective et cette mise en abîme de tous les préconçus, de tout le conditionnement, de tous les dispositifs et de toutes les structures qui sont mises en place dans l'accès à l'œuvre d'art. Et le coup de génie et ce qui nous fait revenir à notre thématique principale, c'est qu'elle pose l'enjeu aussi du droit d'auteur et du copyright. Pourquoi ? Parce qu'au niveau 1 de lecture, elle signe une œuvre d'Andy Warhol sous son nom. Et bah oui, ça pose la question du droit d'auteur. C'est-à-dire que l'acte fondateur des artistes appropriationnistes, c'est de dire que, entendez bien le raisonnement, c'est assez, d'un point de vue de technique juridique, très intéressant. Le droit d'auteur, je mettrai le copyright à part, se définit non pas, et le code de la propriété intellectuelle ne définit pas l'œuvre, il ne définit pas le droit d'auteur, il définit l'accès d'un apport créatif au statut d'œuvre par rapport à son originalité. Et l'originalité, c'est la marque de l'empreinte de l'artiste, de l'auteur et du créateur. Donc c'est la marque de la personne elle-même qui fait qu'un Picasso est un Picasso, ce qui fait qu'un Matisse est un Matisse, qui fait qu'un Damien Hirst est un Damien Hirst, etc., etc., etc. Qu'est-ce qui fait ça ? Ben ça, c'est les juges qui tranchent sur cette notion d'originalité. Et les appropriationnistes, dans l'histoire de l'art, et dans ce mouvement, encore une fois, très réduit, viennent dire, mais si je peux reproduire l'œuvre, l'élément fondateur de la construction du droit d'auteur, qui est l'originalité, se dilue et se néantise dans la capacité que j'ai de reproduire et de revendiquer l'acte de reproduction comme un acte conceptuel pur. Et donc, je crée des œuvres qui détruisent dans sa structure même le concept, les paradigmes, non pas de l'histoire de l'art, mais aussi de l'histoire de l'art, et de toute la question de l'originalité, mais au sens de l'unicité de l'œuvre, qui est un autre sujet, mais du droit d'auteur. Est-ce que le droit d'auteur se fixe sur l'œuvre ? Et là, l'art conceptuel apporte la réponse, parce que quand j'achète une œuvre d'Hélène Tiertevant, j'achète une œuvre qui est une reproduction d'une œuvre préexistante, donc qui est une contrefaçon, si je vais au bout d'un raisonnement. C'est une contrefaçon légale parce qu'elle est assumée et parce que, coup de génie des artistes appropriationnistes, ils créent eux-mêmes la sphère de l'égalité de leur acte artistique par leur protocole en revendiquant et en non plus en assumant, mais en revendiquant l'acte délibéré de reproduction légalisé ou assumé ou revendiqué de leurs œuvres. Et ce qu'on achète, comme on le sait, dans l'art conceptuel, enfin, même si les œuvres de Richard Petitbon sont pas purement, et les œuvres de Richard Prince ne sont pas purement des œuvres d'art conceptuel, mais on achète des artistes appropriationnistes, c'est-à-dire soit un protocole qui dit que, effectivement, j'ai reproduit une œuvre d'Andy Warhol, je dis que c'est une œuvre d'Andy Warhol, etc. Je crée mon champ de légalité dans le cadre d'un contrat tacite et même expressis verbis entre l'acheteur qui achète une œuvre d'art. Il est évident que quand j'achète une œuvre de reproduction de Frank Stella par Richard Petitbon, bon, déjà par la taille, je me doute que ce n'est pas Frank Stella, puisque Richard Petitbon réduisait ses œuvres, mais j'ai conscientisé le fait que j'achetais une œuvre appropriationniste. Alors, le problème qui se pose ensuite, c'est comme je l'ai dit, c'est quand on vient brandir le drapeau de l'appropriationnisme comme un dispositif d'une stratégie judiciaire. Où on a eu le cas notamment dans le dossier qui opposait Jeff Koons au créateur des publicités NAF-NAF, où il y avait des publicités NAF-NAF qui avaient une force créative importante, et Jeff Koons en a fait des sculptures. Je simplifie à l'extrême. Et au moment où on est allé dire à Jeff Koons, mais attendez, c'est de la contrefaçon, il a dit, ah, mais n'oubliez pas, je suis un artiste appropriationniste. Bon, alors il y a aussi dans l'histoire de l'art un peu une confusion, c'est-à-dire que on peut soit mettre l'appropriationniste, c'est intéressant parce qu'il est à cheval entre l'art conceptuel et le pop art. Parce que le pop art, c'est la culture de l'appropriation, c'est s'approprier les éléments de la culture populaire, les icônes de la culture populaire, chez Warhol, James Dean, Marilyn Monroe, les objets de consommation, soupe Campbell, les bouteilles de coca, etc. C'est de l'appropriationnisme, puisqu'on réutilise quelque chose qui existe. Mais ce n'est pas l'appropriation d'œuvres d'art ou d'objets sur lesquels se fixe un acte créatif, c'est l'appropriation de codes culturels, et ça s'inscrit dans toute une réflexion dont je vous passe les détails du pop art. Mais là, c'est dans l'appropriationnisme, c'est l'art qui s'approprie l'art lui-même. Donc c'est un appropriationnisme particulier. Donc on se situe à la frontière du pop art et à la frontière de l'art conceptuel. Ce que je veux dire, c'est que quand Jeff Koons vient dire « Ah, j'oubliais de vous dire, je suis appropriationniste », il s'inscrit dans un courant pop art en disant ben, « Moi, je prends tout ce qui passe ». Et une publicité dans le pop art, ça fait partie de mon matériel, ça fait partie de mes matériaux, ça fait partie du substrat que j'utilise pour mon expression artistique, comme Warhol le faisait avec les bouteilles de Coca-Cola, ou les soupes Campbell qui sont toutes identiques et toutes différentes, etc. Mais on voit bien que derrière, il y a un exercice de mauvaise foi, c'est qu'en réalité, c'était de la contrefaçon ou c'était du parasitisme. Et on a ça dans l'affaire Zadig et Voltaire, et l'affaire Julianne Charrière. C'est-à-dire que, oui, j'oubliais de vous dire, c'est une volonté, si ce n'est pas un hommage revendiqué, j'oubliais de vous dire, je suis un appropriationniste, etc. etc. Donc, parfois, c'est un artifice judiciaire de dire, oui, je suis un artiste appropriationniste, alors qu'en réalité, je ne fais pas partie de ce courant-là. Bon, il y a eu des affaires Richard Prince, qui sont des affaires assez connues, où lui, on connaît le fameux cow-boy Marlboro, où Richard Prince s'est contenté de reprendre les publicités Marlboro, il les a agrandies, il a repris les photos qui étaient dans les journaux, dans Newsweek ou un autre quotidien ou magazine américain, et il en a fait une œuvre d'art. Bon, mais ça, c'est un geste conceptuel qui n'est pas discutable, et de reprendre, et ça s'inscrit dans le pop art. Mais ce que je voulais dire ici, c'est que l'appropriationnisme comme revendication d'un mouvement artistique assumé comme une démarche conceptuelle ne pose évidemment pas de difficulté parce que, encore une fois, elle se fait avec l'imprimatur des artistes cette démarche qui est quand même vertigineuse de dire que je propose, c'est de copier les œuvres préexistantes d'autres artistes. C'est quelque chose qui intellectuellement intéresse les artistes dès lors qu'il n'y a pas de confusion. Dès lors qu'il n'y a pas d'intentionnalité, dès lors qu'il n'y a pas de mauvaise foi, et là on voit toutes les notions de droit civil, de la faute, de la responsabilité et de l'élément moral en droit pénal. Donc quand ça s'inscrit dans cet objectif, dans cette perspective artistique de recherche théorique sur l'histoire de l'art, de Walter Benjamin à l'appropriation, hommage, référence, etc., etc., c'est parfait. Mais là, quand on s'inscrit en rupture et que ça devient un argument de défense judiciaire, là, la question, elle est beaucoup plus tendue et elle est moins honnête, si je puis dire.
C'était L'art au parloir, un podcast proposé par Amicus Radio en partenariat avec Labyrintho, réalisé par Léobardo Arango et Léa Delion.